France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
A priori, on connaît Charles Bukowski pour ses romans et ses nouvelles, romans d'inspiration autobiographique, pour commencer, et cela continuera. Violence, alcool, obsession sexuelle, suicidaire par période, ambition littéraire longtemps mise à mal. Longtemps avant les Contes de la folie ordinaire et le journal d'un vieux dégueulasse, Charles Bukowski publiait des poèmes dans une revue. Charles Bukowski, quand il écrivait, il s'entendait parler. Charles Bukowski et la poésie, c'était le sujet de l'émission de Sophie Nolot, « Ça rime à quoi ?», diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 janvier 2012. Ce rebelle malheureux, adoré par l'underground américain, par les hippies ensuite, alors qu'il ne les aimait guère, lui qui détestait la pop musique et le style débraillé.
Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi ? Tous les dimanches matin et soir, 6h30, 23h30, pour encadrer votre journée à l'écoute de France Culture. Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines, c'est le thème du jour, dicté par Charles Bukowski en 1969 et explicité aujourd'hui par Thierry Beauchamp, son traducteur. Thierry Beauchamp, les éditions du Seuil viennent de faire paraître en collection de poche Point la traduction de la presque centaine de poèmes de Charles Bukowski que vous aviez publié aux éditions du Rocher il y a quelques années. Et par-delà le titre de ce recueil qui a de quoi séduire, « Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines », qu'est-ce qui vous plaît dans la poésie de Bukowski, dont l'aura demeure nimbée d'alcool, de débauche et de cigarettes, aussi si l'on en croit la photographie choisie en couverture sur laquelle son visage criblé est mangé par la fumée de sa cigarette à la bouche avec la barbe de baroudeur et le regard, juste l'œil droit qui pointe vers moi en biais avec un côté assez requin.
Il y a aussi un côté vieux satire, non ?
C'est le journal d'un vieux dégueulasse, c'est ça, Bukowski ?
Il a un petit côté, la photo, aussi. Oui, absolument. Qu'est-ce qui m'a plu dans la poésie de Bukowski ? Moi, je crois que ce qui m'intéresse chez ce personnage-là, c'est l'ensemble de l'œuvre, c'est l'évolution. Et notamment, la plupart des lecteurs de Bukowski en France le connaissent à travers des traductions. Et l'essentiel des traductions concerne ou bien des nouvelles ou bien des romans, les 6 romans qu'il a écrits. Or, si l'on se penche sur sa bibliographie, on s'aperçoit qu'il écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de poèmes, qu'il a pratiquement écrit un
poème.
Parce
que ça va plus vite. Il disait, il y a cette phrase assez terrible sur la poésie en dit long et c'est vite fait.
Il a tout un discours, si l'on peut dire théorique sur la poésie, qui ne correspond pas à sa pratique. Il ne cesse de répéter « don't try hein, » ou « never try », je crois que c'est ce qu'on a fait graver
sur sa tombe californienne.
Donc il ne cesse de répéter que
c'était pas sur l'alcool alors ? Moi j'avais cru comprendre que
non.
C'était « n'y touchez pas, n'essayez même pas ».
Non, je pense que c'est plus généralement, c'est un petit côté mystique, plus on cherche, moins on trouve en gros.
C'est pas Picasso
et,
alors ?
Un petit peu, on est un peu dans cet esprit-là. Poésie s'invite à votre table, c'est pas vous qui l'invitez, etc. Donc, c'est finalement un discours assez romantique sur la poésie, si on creuse un peu. Hein, l'idée qu'il faut être ouvert à la poésie, mais ne pas aller la chercher, ne pas la forcer. Mais la vérité, c'est que cet homme-là a travaillé sur son style, et sa poésie, c'est essentiellement son style, à mon avis, toute sa vie. C'est-à-dire que sur sa machine à écrire, tous les jours, Des potrominets pratiquement, quand il ne se couchait pas, il se mettait à sa machine à écrire. Il a travaillé à écrire des poèmes. Et c'est ainsi, à mon avis, qu'il a perfectionné son style en prose, qu'il a trouvé le ton qui correspond le mieux à la fois à sa voix et à son écriture. Parce que s'il y a quelque chose qui me plaît dans sa poésie, c'est le lien qui peut exister entre son souffle, sa manière de parler et sa manière d'écrire. Il a trouvé exactement le point de rencontre. C'est pas tout à fait comme Céline. Céline a travaillé à l'invention d'un style, si l'on peut dire parler, mais c'est vraiment un exercice extrêmement littéraire chez Céline. Alors que là, il y a quelque chose de l'acteur, du jeu d'acteur chez Bukowski. Et il faudra l'entendre dire sa poésie, ça ressemble à son écriture, et je pense que quand il écrivait, il s'entendait parler.
The Suicide Kid by Charles Bukowski. I went to the worst of bars, hoping to get killed. But all I could do was to get drunk again. Worse, the bar patrons even ended up liking me. There I was, trying to get pushed over the dark edge, and I ended up with free drinks, while somewhere else, some poor son of a bitch was in a hospital bed, tubes sticking out all over him, as he fought like hell to live. Nobody would help me die. As the drinks kept coming, as the next day waited for me with its steel clamps, its stinking anonymity, its incogitant attitude. Death doesn't always come running when you call it, not even if you call it from a shining castle, or from an ocean liner, or from the best bar on earth, or the worst. Such impertinence only makes the gods hesitate and delay. Ask me, I'm 72.
Le petit suicidé. Je fréquentais les pires des bars dans l'espoir d'être tué. Mais tout ce que j'obtenais, c'est de me saouler à nouveau. Pire encore, les clients des bars finissaient même par m'apprécier. J'avais beau essayer de me faire pousser de côté obscur, je ne récoltais que des verres gratuits pendant ce temps-là, quelque part. Un pauvre connard gisait dans un lit d'hôpital, des tubes lui sortant de partout, et il se battait comme un chien pour survivre. Personne ne voulait m'aider à mourir, et les verres continuaient d'affluer, et le lendemain m'attendait avec ses pinces d'acier, son sale anonymat, son attitude irréfléchie. La mort ne vient pas toujours en courant quand on l'appelle, pas même quand on l'appelle d'un château rutilant ou d'un paquebot ou du meilleur bar de la planète ou du pire. Une telle impertinence ne fait que hésiter et retenir les dieux. Vous pouvez me croire, j'ai 72 ans.
La vie plus que chaotique de Bukowski, ce poète et romancier américain mais né en Allemagne, en 1920, qui connaîtra ses premiers succès avec ce journal d'un vieux dégueulasse, est assez indissociable de ses livres, qui d'ailleurs sont pour la plupart des autobiographies. En quelques mots, sa vie, Charles Bukowski, ça commence sous les coups d'un père plutôt violent.
Voilà, il nous a donné cette image d'un père extrêmement violent, injuste, etc. Mais il faut pas oublier que finalement, le seul témoignage qu'on connaisse sur son enfance, c'est le sien, et que ça l'a bien servi. Ça a bien servi son œuvre que d'insister sur ce côté malheureux de son enfance. Je pense qu'il avait un père dur, qui ne s'est pas forcément très très bien occupé de lui, comme il aurait fallu peut-être. Il a manqué d'amour, c'est évident. Sa mère apparemment était une femme aimante sans doute, mais très passive et qui n'intervenait pas quand son père lui infligeait des corrections. Donc si l'on rentre dans les critères de notre époque, on pourrait dire qu'il était un enfant battu. Il a pris quelques coups de ceinture, quelques coups de pied au derrière. Il a été brimé souvent avec beaucoup de corvées à faire, des choses comme ça. De là à dire qu'il était un enfant qu'on enfermait dans les placards, qu'on ne nourrissait pas et qu'on battait quand on était trop ivre, c'est aller trop loin, je crois. Cela étant, son enfance a été celle d'un petit garçon des banlieues, de la banlieue de Los Angeles.
Il quitte l'Allemagne dès ses 3 ans,
Oui, il était tout petit quand ils sont repartis. Son père voulait s'installer en Allemagne, mais il n'a pas trouvé de travail, ce qui est étonnant dans l'Allemagne de la reconstruction. Mais son père n'était pas un grand courageux, je pense. Donc quand ils sont revenus en Californie, ils ont déménagé 2-3 fois, mais toujours dans la banlieue de Los Angeles. Et il a eu une scolarité relativement normale, à part ces années terribles où il a développé une acné purulente. Il a dû rester chez lui pendant un certain temps. On venait lui faire des injections à la seringue pour nettoyer ses plaies, etc.
Et son visage en a gardé la trace.
On a gardé la trace et je pense que ça a été une des expériences les plus traumatisantes de sa vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, il était déjà un peu marginalisé du fait que ses parents sa mère parlait avec un accent allemand et de son nom, de ses origines. On le stigmatisait un petit peu là-dessus quand il était petit, pas énormément. Mais alors, l'histoire de l'acné purulente, il devenait tout d'un coup une sorte de pestiféré. Évidemment, à un âge où on commence à s'intéresser aux filles, il était surtout sujet de moquerie de la part de ses petites condisciples. Ça l'a marqué parce que, tout en étant de plus en plus obsédé par les filles, il a développé une timidité qui l'a empêché de se rapprocher des femmes avant très longtemps. Finalement, il a eu ses premiers rapports sexuels avec des femmes sont arrivés, il avait largement, je crois, 24 ou 25
on
ans.
On en parle avec parce que c'est très présent dans l'œuvre.
Oui, il en parle, hein, bien sûr. Hein. Beaucoup. Et c'est central, la sexualité dans son œuvre. Elle est abordée en permanence. Et premier rapport sexuel avec une prostituée, et après il faut attendre assez longtemps avant qu'il ait des rapports suivis avec la même femme, Jane Coney Baker, qui est sa première grande aventure amoureuse, et qui est une femme brisée en fait.
De 10 ans son aînée, à laquelle il dédie ses jours qui s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines.
C'était une femme très importante parce que, à la fois, elle l'a enfoncé, parce que pendant des années, ils ont mené la vie de pochetron, en fait, de pilier de bistrot.
Il la rencontre dans un bar.
Voilà, il la rencontre dans un bar. C'était très vieux. Évidemment, les rapports de couple placés sous signe de l'alcool, on imagine ce que ça donne. C'est souvent violent, beaucoup de colère, etc.
Et d'un autre côté, les poèmes sont très loin de ça.
Oui, très très loin, parce qu'ils ont été écrits, les poèmes qu'on retrouve dans le recueil, ils ont été écrits quelques temps après sa mort.
Et la mort 255 jours que tu reposes sous l'herbe.
Et ils sont assez bouleversants parce que il repense à cette femme qui a pas une vie heureuse. Quand il l'a rencontrée, elle était déjà brisée. Elle avait déjà une vie avant. Elle avait été mariée, elle avait eu des enfants et elle était à la dérive totalement. Et c'était aussi une femme, il en parle hein, régulièrement dans ses bouquins, il en parle aussi comme d'une femme extrêmement sensible, perspicace. Et qui, à mon avis, lui a ouvert les portes d'un monde dangereux, mais d'un monde qui a nourri son œuvre, qui est celui de la nuit, de la rue, des bistrots, des petites gens, des déshérités de l'Amérique. Qu'elle a eu un rôle essentiel, comme pratiquement toutes les femmes qui ont joué un rôle important dans la vie de Bukowski lui ont ouvert des portes, d'une manière ou d'une autre.
The days run away like wild horses over the hills. The phone rings. And it is usually the woman with the sexy voice from the phone company telling me to please pay my phone bill. But this time a voice says quietly, "You son of a bitch." And it is the editor of a dozen magazines, everything les from religious s'en vont pamphlets comme des to chevaux sauvages dans les collines. And he asks, le téléphone sonne, et c'est généralement la femme à la voix sexy de la compagnie de téléphone qui me demande poliment de régler ma facture. Mais cette fois-ci, une voix dit calmement, espèce de fils de pute. Et c'est l'éditeur d'une douzaine de publications, tous les styles, de la brochure religieuse à la revue spécialisée dans l'avortement à domicile. Et il demande, pourquoi n'as-tu pas appelé? Et je réponds, on ne s'entend pas. Catalyse, dit-il. Pigé, dis-je. Puis il me dit qu'il m'a vu dans le numéro 5 de Crab Legs and Mule Tears et que je m'améliore. Je lui dis que je suis lent au démarrage, mais comme je n'ai que 42 ans, j'ai encore une bonne chance de décrocher le timbal. Et il me dit, viens donc, je veux te présenter une amie. Et je lui réponds que je lui donnerai un coup de fil après la course.
« qu'il y a ces trois vers ou cette phrase qui ouvre ce recueil, les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines, qui disent aussi combien l'écriture pour lui va devenir une façon de tenter de devenir quelqu'un, d'exister. Mets ton nom en lumière, mets le bien en évidence, en 8,5 × 11 Ronéo. Et on entend sa machine à écrire derrière aussi.
Ça, c'est marrant parce que pour nous autres Français qui avons un rapport à la poésie et aux poètes très différent des Américains, pour nous, un poète, ça ne cherche pas la lumière, ça ne cherche pas la notoriété. Un poète, ça vit dans l'ombre, dans la discrétion, dans le dénuement, etc. Non, Bukowski, et il n'est pas le premier. C'est intéressant, vous avez une tradition américaine. Je suis en train de faire des recherches sur le poète Joaquin Miller au 19e siècle. C'est une espèce de Bukowski de son époque qui se met en scène, qui met en scène sa persona, qui arrive en Angleterre avec des chapeaux de cow-boy. Et Bukowski, dès le départ, il dit, il faut que je fasse de l'argent. Et quand il se met à la poésie, il dit, oui, c'est ce qui me... La poésie, donc il commence à en écrire dans les années 55 ou 54.
Il a déjà 35 ans.
Oui, oui. Il a commencé par écrire des petites nouvelles. Et puis, il s'est dit, en voyant... D'abord, il a été marqué par la poésie de Robinson Jeffers, qui est un poète qu'on ne connaît pas ici, mais qui est un poète dont la poésie est narrative. Il a été très marqué par ce style.
Ses poèmes, à lui aussi, racontent tout le temps quelque chose.
Oui, et de plus en plus, d'ailleurs. Parce que c'est encore un genre mixte à l'époque, jusqu'aux années, la fin des années 60. Et ce recueil-là, on voit bien, il y a des éléments un peu de montage, un peu d'automatisme aussi, parfois. Et puis, plus ça va aller, au fil des années, on va voir ses poèmes devenir de plus en plus limpides et sur le ton de l'histoire, en fait. Je crois que c'est Ferlinghetti qui, pour se moquer de Bukowski, disait qu'au bout du compte, ce sont ses nouvelles, simplement. Et il a probablement trop bu, alors il ne va pas jusqu'au bout de la ligne avec sa machine à écrire. C'est un peu injuste, parce qu'il y a quand même un exercice, encore une fois, remarquable de la part de Bukowski, de juxtaposition entre son souffle et son écriture. C'est pas n'importe quoi, ces coupures... Et je dois avouer humblement qu'en tant que traducteur, j'ai pas pu respecter ça parce que ce sont pas les mêmes langues, ça ne sonne pas de la même manière. Faut reconnaître aussi que dans le recueil que j'ai traduit, les jours s'en vont comme les chevaux sauvages dans les collines, il y a encore beaucoup des éléments de télescopage, d'images, de sens qui ne permettent pas de jouer de la même manière, je pense, avec les césures qu'il installe.
Le titre, ça commence plutôt facile, magnifique, parce que c'est magnifique. Vraiment une traduction littérale de « Days run away, ouais, like wild horse over the hills ».
On aurait pu dire « s'enfuit » d'ailleurs. C'est du mot à mot. Oui, absolument. Il avait un génie du titre, Bukowski. J'adore ce titre.
Mais le côté Far West ou Autant d'emporte le vent s'arrête là, hein, parce qu'après c'est bien plus rude à l'intérieur.
Oui, oui.
Les chevaux reviennent, c'est son autre parallèlement à la boisson, qui d'ailleurs devra s'interrompre le temps d'un ulcère et qui lui laisse du temps pour les courses hippiques. Les chevaux, c'est son
grande
autre passion.
Une grande passion. Quand on traduit, on finit toujours plus ou moins par s'identifier. On est dans l'empathie et puis progressivement dans l'identification dangereuse. Et moi, j'adore le football et
vert aussi.
Et voilà. Et donc je me projetais assez facilement sur ces histoires de Paris et sur cette respiration qu'il avait quand il allait au champ de course, ça l'éloignait de tout, ça le ramenait à ses rêves de pauvre, en fait. L'idée qu'on peut faire fortune comme ça sur un pari ou gagner beaucoup d'argent très vite et s'abstraire d'une réalité qu'il détestait, celle des petits boulots. Et notamment, je crois qu'il s'est mis à jouer aux courses lorsqu'il travaillait à la poste.
En ouvrant la porte de ma chambre, une grosse demoiselle trouble ma vision, des bouteilles tombent et une voix dit « Pourquoi tes poèmes sont-ils tous personnels ?»
Ils le sont, hein, effectivement. C'est-à-dire qu'il fait feu de tout bois. Hein. Il suffit qu'il attrape un rhume et il écrit un poème. Pour lui, la question... Il s'exprimait là-dessus. Il ne supporte pas l'idée des poètes traitant des grands sujets ou cherchant à se mettre en communication avec l'autre monde ou je ne sais trop quoi. C'est quelqu'un qui ne se pose pas cette question-là. Il est... La poésie doit couler de source. Et quelle est la source ? C'est sa vie quotidienne, en fait. Et il aurait tendance à provoquer des incidents, parfois, avec ses amis, notamment amis IES, pour trouver une bonne idée de poème ou de nouvelle. Ça a dû lui arriver, je pense.
Et cette langue, cet Américain aussi nourri d'allemand, puisque sa mère parlait avec un fort accent,
ouais,
et il vient de là malgré tout.
Ouais, je ne sais pas si ça a une très grande influence. Ce qui est sûr, c'est que il est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit dans son rapport au langage, parce que évidemment, on obtient en bout de route une écriture très simple, très claire, très limpide, très forte. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. Il y a eu des influences multiples qui sont bousculées dans sa tête. Et je trouve que ce recueil-là, de 69, qui est la première grande anthologie de sa poésie, finalement. La plupart des poèmes qu'on retrouve dans ce recueil ont été écrits entre le milieu des années 50, période au cours de laquelle il commence à écrire de la poésie, et la fin des années 60, 69, même certains datent de l'année de la publication du recueil. Et donc on retrouve là, ce sont des années vraiment capitales pour la construction de son style poétique, et on voit bien l'évolution, on voit bien la tentation par moment d'aller dans le sens de ces poètes qu'il déteste de son époque, les poètes beat, les poètes qui pratiquent des cut-ups, qui jouent avec le langage.
Alors que très souvent on le confond avec ce côté vie débauché,
mais il était
qui ne se bouque à l'alcool et
il
à la cigarette, qui le rapproche très souvent de l'underground.
Et notamment par ceux qui sont venus après, les hippies. Ils l'ont vraiment pris comme un des leurs, alors qu'il était...
Il était contre.
Oui, vous savez, c'est comme chez les Schtroumpfs. Vous avez le Schtroumpf grognon. C'était un peu le hippie grognon, d'une certaine manière. Mmh. Parce
si
que...
ce n'est qu'il n'est pas pour les enfants, Bukowski, quand même.
Non, mais tout ce qui pouvait être hippie, détestait. Il détestait la pop musique, il détestait le style débraillé. Mais le fait est que les gens qui tournaient autour de lui et sa dernière épouse, on peut les cataloguer comme des hippies.
On getting famous and being asked, can you recite? Can you be there at 9? And all they know is kill, these pungent insects. And as we whirl in the new worlds, I am filled with space, and I am ill. I roll a child's marble upon
devenir the célèbre et se faire demander, pouvez-vous venir faire une lecture? Pouvez-vous être là à 9h? Tout ce qu'ils savent, c'est tuer ces insectes piqueurs. Et tandis que nous tourbillonnons dans le nouveau monde, je suis plein d'espace et je suis malade. Je fais rouler une bille d'enfant sur le tapis, puis je l'entends cogner dans un nouveau coin et je vomis lorsque le téléphone se met à sonner. Monsieur Spanish, dit une voix, nous voulons que vous preniez la parole devant la société. Nous pensons que c'est vital. Je raccroche, bien sûr, et je trouve une orange dans le réfrigérateur. Mais avant d'avoir eu le temps de l'éplucher et de le manger, je suis de nouveau malade. Et je retire et range mes chaussures et m'assieds en tailleur, comme une statue que j'aimerais posséder. Et à 3h de l'après-midi, j'attends de mourir.
C'est d'une vérité absolue. Il vivait très très mal toutes ses apparitions en public et il était obligé de se saouler avant et de vomir systématiquement. Et ce qui est paradoxal chez lui, mais c'était un être paradoxal, c'est que lorsqu'il a compris que sa voix plaisait, que ses lectures plaisaient...
Qu'est-ce qui plaisait ?
Je pense que c'est... Il a véritablement un talent de comédien. Il y a quelque chose d'envoûtant là-dedans. Il avait une voix très très bien posée naturellement. Il disait très bien... Et d'ailleurs, McCartney avait délégué Barry Miles pour créer une sorte de discothèque des grandes voix de poètes en Angleterre, en Amérique. Malheureusement, le projet n'a pas pu aboutir, mais les enregistrements avaient été faits. Ils sont ressortis plus tard, de manière éparse, sous forme de CD. Ils avaient choisi Bukowski justement parce qu'ils étaient fascinés par sa voix, en fait. En plus, Bukowski aimait l'argent et quand il a compris qu'il pouvait gagner pas mal d'argent à faire des conférences, des conférences, il aimait pas trop, mais les lectures, il aimait beaucoup. Je pense qu'il aimait assez l'échange avec ses jeunes admirateurs, puisque quand on écoute les enregistrements, ça se termine toujours par un bon mot ou un dialogue avec le public. Moi, je maintiens que ce type avait un côté acteur. Il y a plein d'acteurs qui ont un trac terrible, qui les rend malades avant d'entrer en scène, mais qui sont très heureux une fois qu'ils disent leur texte.
Song of my typewriter. The best way to think is not at all. My banjo screams in the brush like a trapped rabbit. Do rabbits scream? Never mind. This is an alcoholic dream. Machine guns, I say. The altar boys, the wet nurses, the fat newsboys, rubber-lipped delegates of the precious life. My banjo screams. Sing. Sing through the darkened dream. Green grow green. Take gut. Death at last is no headache. Chanson de ma machine à écrire. Le meilleur moyen de penser est de ne pas penser de tout. Mon banjo crie dans les fourrés comme un lapin pris au piège. Est-ce que les lapins crient? Peu importe, ceci est un rêve d'alcoolique. Des mitraillettes, dis-je, les enfants de cœur, les infirmières trempées, les gros vendeurs de journaux, représentant aux lèvres de caoutchouc de notre précieuse vie. Mon banjo crie, chante, chante dans le rêve assombri. Verdi, Verdi, prends courage. Enfin, la mort n'est pas une migraine.
Oui, un jour sombre. Un jour sombre. C'est intéressant, c'est que je vois surtout le lien charnel à sa ou ses machines à écrire. On voit bien que dans cet exercice quotidien de l'écriture et de la machine à écrire, il y avait quelque chose de l'ordre de la confession permanente. Et comme je l'ai dit, c'est à la fois beaucoup de sincérité, mais il y avait quelque chose de joué là-dedans, parce que c'est aussi un exercice de prière, si l'on peut dire, un exercice de style. Bukowski, on est plus comme l'improvisateur de musique, il reprend le thème, il revient dessus et il creuse, mais son inspiration ne le porte pas tellement à la joie et à la lumière finalement. Il va donner le sentiment de s'amuser sur un verre et puis derrière il se coupe l'herbe sous le pied, il faut que ça retombe vers quelque chose de profondément ou violent ou angoissant ou désastreux. Avec lui, si on se contente de lire un poème, la plupart du temps on n'est pas très bluffé, ça paraît bien banal, bien simple. Et si vous vous laissez emmener dans le rythme de ses poèmes, alors là, vous rentrez dans un univers et vous sentez toute la... Il y a un mot qui lui va bien, c'est vulnérabilité. C'est une poésie de la vulnérabilité. Derrière le côté matamor, le côté parfois macho, le côté donneur de leçons, vous sentez en permanence un type qui n'est pas sûr de ses pas, qui n'est sûr de rien et qui était assez dépressif, Bukowski. Hein. On peut dire que c'est quelqu'un qui a souffert pratiquement toute sa vie de dépression chronique, finalement. Et l'alcool était une sorte de mauvais remèdes à ce problème. Et donc vous sentez cette peine. Et puis vous avez des éclairs d'espérance dans sa poésie. Souvent, ça passe par les femmes. Et c'est d'autant plus troublant. Dans un ciel chargé, quand vous voyez passer un rayon de soleil, vous y faites un peu plus attention que quand vous êtes au plein soleil au Mexique. Quoi.
Et aujourd'hui, quel est le regard que l'on porte sur, si ce n'est son œuvre, en tout cas ce parcours assez à la marge, malgré tout reconnu aussi aux États-Unis.
Je comparerais sa réputation à celle de Richard Brautigan, que j'ai eu aussi la chance de traduire. C'est-à-dire, ce sont des auteurs cultes. On ne peut pas dire que leur notoriété augmentée ou soit amoindrie, mais ils ont un lectorat, je pense, d'une fidélité absolue. Quand on commence à les lire, on se sent obligé de rester très proche d'eux, en fait, des amis, en quelque sorte. Et les deux étaient des rebelles à leur manière malheureux. Mais je suis pas loin de penser que les plus belles années de sa vie ont été les dernières. Quand il a rencontré sa dernière épouse, Linda Lee Bagel, on peut dire qu'il a trouvé une espèce de sérénité. Et quand on lit les derniers poèmes de sa vie, on la ressent. Se traîner vers le nirvana, c'est un des recueils posthumes. L'éclair derrière la montagne, ce sont des poèmes beaucoup plus détachés. Il n'y a plus du tout des éléments comme ça de hallucinés, violents, etc. Et puis une maîtrise absolue de son registre poétique, c'est-à-dire ces narrations versifiées, être capable d'installer une situation, une anecdote comme ça en une douzaine de vers. Et là, il est devenu un maître en la matière dans ces dernières années. Au bout du compte, quand je dis qu'il avait des rêves de bourgeois, sa vie se termine avec une belle villa à San Pedro, dans un beau quartier de la banlieue de Los Angeles. Mais c'est pas ça qui l'a rendu. Ça l'a aidé à être serein parce que là, il a toujours été obsédé par l'idée de joindre les deux bouts. Comment vivre à peu près décemment sans être l'esclave de son patron ou de son chef de service, etc.
Il y a un poème là-dessus.
Ouais, sur les chefs de personnel. Donc. Il a obtenu un certain confort, mais il est évident que c'est pas ce qu'il touchait en profondeur. Je crois que c'est quelqu'un qui était beaucoup plus profond, beaucoup plus dans la sensibilité humaine que ça, et beaucoup de une recherche de d'empathie chez lui permanente. C'est curieux parce que c'est associé à un tas de mots violents, de provocations, d'actes qui pourraient nous sembler déplacés, mais encore une fois, lorsque vous l'avez beaucoup lu, vous vous rendez compte qu'il est du côté du cœur.
Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines, de Charles Bukowski, traduit de l'anglais par Thierry Beauchamp aux éditions du Rocher, vient de reparaître en poche en collection Poésie. Ces poèmes étaient dits par Geoffrey Carey. Ça rime à quoi ? Cédric Chatelus, Sébastien Royer, Anne de Biran, Patrick Molinier, Sophie Nolo.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 janvier 2012.